Radio Canu, la plus rebelle des radios. All your call is a diamond fella. All you little boys are coming to your parents. You fellow, but your fellows get played like a cello. I'm doing my thing, you're jealous like a cello. You, what are you gonna do? Little boys get tamed like a shoe. You miss summer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm capturing your money, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, but until you see me. As for me, all's well that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about tomorrow, I know all's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions. Do what you like. You much ado about nothing. All you do is fight it. I'm too tired. I don't need 12 nights. All your little tempers get murked on the mic. Of course, I am the one with the force. Your history just like Henry the Fourth. I'm fire. Things will die. Bonsoir.
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 Nous sommes le mercredi 18 mars. Il est 19h passé de 3 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Alors, ce soir, on commencera ce Canu Info par quelques brèves.
Puis nous parlerons du procès suite à la mort de Ziad Ebouna il y a 10 ans.
Ensuite on parlera du Patriot Act à la française.
On viendra sur la piscine de Lyon où Colomb se croit le roi du chlore.
Ensuite on aura quelques news de Calais.
Et on aura notre chronique mensuelle, le fil d'Ariane, qui nous parleront des expulsions locatives. Et donc, petite brève pour annoncer qu'aujourd'hui à Tunis, il y a eu un attentat. Au moins 19 personnes, dont 17 touristes et un policier, ont été tués dans une attaque menée par deux hommes armés dans le musée du Bardo à Tunis. Les deux assaillants sont morts au cours de l'attaque. Et parce qu'il y a eu une attaque visant à libérer les visiteurs qu'ils avaient pris en otage dans le musée. Et donc les flics les ont tués les deux. Cette attaque n'a pas encore été revendiquée. Elle a commencé par une fusillade qui avait visé des touristes arrivant en car devant le musée. Et le musée est mitoyen du Parlement tunisien où les travaux des commissions parlementaires portent en ce moment sur les moyens alloués à la lutte contre le terrorisme. Et donc ils ont été suspendus après les tirs. Et donc c'est à se demander si l'attaque au départ était plus visée sur les députés que sur ce quart de touristes.
Alors le Likoud, le parti de l'actuel Premier ministre Benjamin Netanyahou, est arrivé en tête des élections législatives avec 23,26% des voix, ce qui lui ferait environ entre 29 et 30 sièges. Alors le parti travailliste, qui est le centre-gauche un peu là-bas, est arrivé deuxième avec 18,73% des voix, soit 24 sièges. Et pour la première fois dans l'histoire du pays, le parti arabe est arrivé troisième avec 10,98% des voix, soit 14 sièges. Alors Netanyahou doit donc former une grande alliance pour s'assurer une majorité et il a déjà fait savoir qu'il se tournerait, comme on s'y attendait déjà un peu, vers les partis d'extrême droite et les religieux ultra-orthodoxes. Alors comme il se sentait un peu sur la sellette pour ces dernières élections, il avait fait avant le jour du vote de grands discours pour séduire l'extrême droite du pays en parlant d'intensifier les colonies et de durcir sa politique envers la Palestine. À la suite de ces résultats, les Palestiniens ont annoncé qu'ils allaient saisir la Cour pénale internationale pour poursuivre les dirigeants israéliens.
Une dernière petite brève de propos racistes où Jean-Marie Le Pen est en grande forme ces jours-ci. Donc ce matin sur France Inter, il a déclaré, en revenant sur le procès d'Anne-Sophie Leclerc, vous vous rappelez la candidate FN qui avait comparé Christine Taubira à un singe et qui avait été, suite à ça, condamnée à 9 mois de prison ferme. Donc il a dénoncer une différence de traitement entre les militants violents de l'extrême gauche et, je cite, les dérapages politiques ou esthétiques des candidats du Front National. Et donc, il a été repris par Patrick Cohen, esthétique, et Le Pen ensuite a bafouillé, oui, c'est une image, Donc la comparaison Taubira, de Taubira et d'un singe, et on peut dire, donc il dit, on peut dire que c'est esthétique cette image-là. Voilà. Et procès des flics suite à la mort de Ziad et Bouna il y a 10 ans. Donc aujourd'hui c'est la 3e journée du procès de ces policiers jugés pour non-assistance à personne en danger. C'est les remontes faits à 2005 et étaient à l'origine de 3 semaines d'émeutes dont je pense que tout le monde se souvient. Et le procès donc s'est ouvert devant le tribunal correctionnel de Rennes et doit durer jusqu'à vendredi. Il s'est ouvert lundi. Voilà, mardi, l'audition des bandes de la police de la soirée, l'audition des bandes de la police de la soirée du 27 octobre 2005 a replongé forcément beaucoup de gens dans la peine et la colère suite à la mort des 2 ados morts. Et des personnes en solidarité ont posé des banderoles, une banderole soutien aux proches de Ziad et Bouna sur un mur situé à proximité du tribunal. Des rassemblements quotidiens devant le tribunal ont été annoncés. Et apparemment, là, de ce que j'ai lu, les 2 flics, donc Sébastien Guéhumain et Stéphanie Klein, jouent plutôt le mode idiot et pleurent beaucoup. Par exemple, dans un des trucs qui a été dit aujourd'hui, c'est donc Stéphanie, elle dit qu'elle n'avait pas compris qu'un site EDF, ça pouvait être un danger potentiel et que quand on lui a dit EDF, elle pensait plus à un site administratif. Des choses comme ça où, on va dire, les flics jouent pas mal les idiots apparemment dans ce procès. Et ils encourent 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Mais on va dire que, alors moi j'ai pas les chiffres, peut-être vous les avez, mais je pense qu'il y a en vrai peu de flics qui sont faits condamner suite à des assassinats, et ils ont plutôt été globalement acquittés, moi dans tout cas des affaires que j'ai suivies. Et aujourd'hui il y a une manif qui a eu lieu dans l'après-midi, une centaine de personnes s'est réunie dans les lieux les plus passants de Rennes pour un peu bloquer la circulation. Donc cette manif était interdite par le préfet, et elle s'est faite sous haute surveillance des dizaines de policiers et gendarmes quadrillaient le centre-ville. Et il y avait aussi un autre rassemblement à 18h à Villejean.
Alors, et ben, comme on s'y attendait à la suite des attentats de Charlie Hebdo, mais comme bon, le gouvernement nous avait promis qu'il n'y aurait pas de Patriot Act à la française, et ben, une fois de plus, il a menti. Et là, il prévoit de faire du coup voter tout un tas de lois qui vont atteindre encore plus à nos libertés. Alors, une des mesures qui a déjà été mise en place, c'est celle qui consiste à bloquer un site internet de manière administrative. Alors, on pouvait avant bloquer des sites internet, ça avait déjà été possible et ça avait déjà été fait, on s'en souvient, sur Copwatch Nord-Île-de-France notamment, parce qu'on en a déjà parlé ici. Mais ça devait passer par la justice et un juge devait donner son accord, mais maintenant il n'y a plus qu'une autorité administrative qui doit donner cet accord-là. Et comme les autorités administratives sont encore moins indépendantes du pouvoir que la justice, c'est vous dire que vos niveaux de liberté individuelle vont sacrément réduire. Alors pour résumer, maintenant, rien de plus simple pour le ministère de l'Intérieur de faire bloquer un site. Pour l'instant, 5 sites, hein, les médias n'ont pas mal parlé, 5 sites internet ont été bloqués pour apologie du terrorisme. Et bon, c'est déjà un peu un couac, puisque l'administrateur d'un des sites bloqués a écrit une lettre ouverte sur Numérama, qui est un site internet sur un peu l'actualité numérique, pour dire que rien sur son site ne pouvait laisser croire qu'il s'agissait d'apologie du terrorisme et qu'il avait plutôt l'impression d'avoir été censuré pour son point de vue que pour de réels actes d'apologie du terrorisme. Mais ce n'est pas la seule mesure qui va être prise, et dans le futur projet de loi que prévoit le gouvernement, en gros, il s'agit de donner beaucoup plus de largesse aux flics et plus particulièrement aux renseignements. En gros, l'idée du gouvernement, c'est de dire que ce qui empêche d'être efficace dans la lutte contre le terrorisme, c'est toute la paperasse et les juges. Il va donc réduire la paperasse et supprimer l'intervention d'un juge dans des procédures de surveillance. Du coup, les flics vont pouvoir surveiller, infiltrer, tracer, écouter, sans passer par la case justice, qui, encore aujourd'hui, valide ou non une mise sur écoute, le placement d'une balise GPS sur un véhicule, etc., etc. Mais tout ça, c'était avant. Alors, le projet de loi prévoit de faciliter la mise en place de micros et caméras dans des lieux privés, la pose de balises donc sur des véhicules, l'accès aux factures détaillées, les fameuses FADET, l'accès aux SMS et aux conversations téléphoniques, la mise en place d'un keylogger sur des ordinateurs. Alors, petite explication, les keyloggers, c'est un micro-logiciel qui est, enfin, que vous voyez pas, qui travaille en sous-main sur votre ordinateur et qui permet de récupérer toutes vos frappes sur vos claviers. Intérêt, c'est de récupérer tous vos mots de passe, tous les textes que vous tapez et tout. Mais l'intérêt principal, c'est sur un, par exemple, un ordinateur qui serait sécurisé où il y aurait un mot de passe pour pouvoir y accéder, c'est de connaître ce fameux mot de passe et pouvoir accéder à tout le contenu de l'ordinateur. Et ils vont également étendre l'utilisation d'une balise espion du type, bon là c'est un peu barbare, c'est IMSI Catcher. Alors c'est un peu compliqué, mais c'est un appareil qui aspire toute ou en tout cas une énorme partie de vos données sur les téléphones portables sans aucun contact. En gros, les flics le placent, hein, ça craint vraiment, les flics se placent par exemple place Bellecour. Et la balise fait croire à tous les téléphones aux alentours. Alors là, ça dépend un peu de la puissance de la balise, tout ça. Bon, c'est des données qu'on n'a pas trop, vous imaginez. En tout cas, elle fait croire à vos téléphones qu'il s'agit d'une borne relais. Les bornes relais, c'est ce qui permet qu'on capte le téléphone. Du coup, votre téléphone se dit « Ah, chouette, je vais me connecter sur cette balise. » Hop, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la balise capte automatiquement toutes les données qu'il y a sur votre téléphone. Donc, si vous avez des téléphones qui font juste appeler comme moi, ça veut dire qu'il y a les contacts et les listes d'appels, les SMS. Et par exemple, si je vais passer un coup de fil à ce moment-là, bah, ils pourront écouter ma conversation. Mais si vous avez des smartphones, tout ça, eh ben, ça comprend les mails, les contacts, les SMS, les applications que vous utilisez. Je sais pas moi, tout un tas de trucs. Si par exemple vous avez votre GPS qui est toujours activé, ça va avoir l'historique GPS, enfin tout l'historique de votre téléphone, tout ce que votre téléphone contient, aspiré, comme ça. On dirait un peu de la science-fiction, mais c'est bien vrai. Tout ça existait déjà avant, mais là les budgets vont bien sûr être largement augmentés et la mise en œuvre sera donc beaucoup plus simple et opaque et sans aucun contrôle, puisqu'on l'a dit juste avant. Plus aucun juge n'aura à faire, n'aura à valider ou pas. Alors, dans la loi, c'est précisé sur des trucs de, sur une période de 2 mois ou 2 mois renouvelables ou suivant les dispositifs et tout. Je vous ai parlé des détails. Voilà. En gros, et ben, notre Patriot Act à la française, nous l'avons et il est bel et bien là.
Piscine de Lyon, Colomb se prend pour le roi du chlore. On en a déjà parlé, mais comme là le printemps arrive et que ça va être bientôt, j'espère, les baignades, il faut en mettre une petite couche. Et c'est le Guillotin qui a mené l'enquête et qui a prouvé dans son article que Lyon a le privilège d'avoir la piscine municipale la plus chère de France. Mais ce tarif provoquant, c'est la suppression massive des tarifs sociaux dans l'ensemble des piscines lyonnaises. Et conséquence, les jeunes en particulier commencent depuis l'année dernière et la mise en place de ces nouveaux tarifs a déserté la piscine. Et la piscine de Rhône devra être un équipement de rayonnement national. Ça, c'est un document interne au service de la ville de Lyon sur lequel le Guillotin a mis la main et qui évoque ainsi l'objectif de la rénovation de la toute pimpante piscine. Et ça rayonne dur, en effet, puisque c'est à 8 euros l'entrée. Et donc, Lyon peut se targuer d'avoir la piscine municipale la plus chère et de loin. Puisque Lyon c'est 8, donc Paris c'est 5,80 €, Marseille 5 €. Ça c'est les juste pour ces trois villes là, mais ça va toujours en s'abaissant pour toutes les autres villes. Et sachant que les piscines parisiennes par exemple à 5,80 € sont en gestion privée. Donc c'est un peu le tour de magie, la piscine du Rhône, je rappelle. Une piscine, les travaux financés par des fonds publics. Donc il y a 2 ans, elle a réouverte avec les tarifs qui étaient normaux à l'époque, en vigueur, et n'avaient pas augmenté. Et l'été dernier, bam, ils l'ont passé en centre aquatique pour justifier les prix exorbitants de 8 euros. Donc, je ne sais pas exactement la gestion, mais ce que ça fait comme effet, c'est le passage de tarif public à une gestion privée, même si... Voilà. Et une bonne manière de chasser les familles, les pauvres, les jeunes ou pas, etc. Et parce que ce qu'il faut bien dire, c'est que l'été, pour nous, c'est un endroit de zone pour les gens qui ne vont pas en vacances. Et donc, c'est super d'aller à la piscine. Mais ce temps-là est révolu. On va aller se faire les mollets ou attendre une heure le bus pour pouvoir aller se baquer à Miribel. Bon, il n'y a pas de chlore, mais il y a des algues, alors, entre les algues et le chlore, et ben, on va choisir les algues. Et donc, la mairie, donc je reprends ce que disait le guillotin, s'explique en parlant de cartes de réduction, en disant « oui, c'est cher, mais il y a des cartes de réduction ». Et en fait, ils ont continué l'enquête, et la carte famille, du coup, sur l'été 2014, a fait moins de 2% des entrées. La carte été jeune, moins de 1% des entrées, ce qui est énorme. Donc, ils ont fait fuir en un été les plus grands habitués de ces piscines. C'est-à-dire qu'en modifiant des tarifs, ils ont transformé complètement la population.
Juste précise, parce que notamment la carte jeune, c'est une carte qui est assez intéressante, mais il faut lâcher 50 euros d'un coup. C'est notamment la raison pour laquelle, à mon avis, elle est peu achetée.
Voilà, et donc le guillotin finit avec un peu de cynisme. Contrairement aux élus, les personnels de la piscine du Rhône ne s'en cachent pas. Alors je cite, oui c'est sûr, les nouveaux tarifs, ça a changé complètement la clientèle. Mais comme ça, on ne se fait plus insulter, on est tranquille, c'est bien. Ça c'est une dame de l'accueil en septembre qui leur parlait. Et donc voilà, petit exemple. Calais, l'hostilité continue. C'est officiel maintenant, les autorités État et communes de Calais veulent que les exilés aillent s'installer de gré ou de force dans la Garenne qui se situe près du camp Jules Ferry. Officiel toutefois jusqu'à un certain point, puisqu'ils y seront tolérés. À Calais, quand il y a trop de monde, les gens ils sont tolérés dans ce qu'ils appellent les jingles. Mais sauf que autorisés, ça veut dire qu'ils sont tolérés jusqu'à ce que la tolérance des autorités cesse et qu'ils les envoient ailleurs. Donc voilà. Et en fait, il a été d'abord question que les exilés soient dans la partie nord de cet espace. Et les terrains sableux est en partie constitué de dunes accidentées et le sous-sol doit être argileux puisque l'eau stagne dans les creux. Donc il y a peu de surface où il est possible de planter des tentes ou de construire des cabanes. Et le reste de la surface est couvert de buissons épineux et dans certains endroits de marécages est parcouru de boucles tracées par les motocrossistes qui s'en donnent à cœur joie dans la partie sableuse et vallonnée. Et de sentes parsemées de douilles qui sont empruntées par les chasseurs. Donc vous voyez, c'est pas, ça donne pas envie de se dire tiens, je vais aller habiter sur ce site. Alors avec les chasseurs, les motos et les épineux. Mais ils ont changé d'avis pour trouver un site encore pire. Parce que ça, c'était encore un site qui avait été utilisé à une époque par des migrants. Pour dormir. Et là, ils se sont dit, tiens, on va aller prendre le site que les migrants, ils n'ont jamais osé les installer dessus. On va être obligé de les installer dessus. Puisque c'est dans la partie sud et cette partie est une ancienne décharge. Donc, il y a principalement des gravats venus de la destruction de bâtiments. Donc, sur le site, on voit très peu de végétation. On voit pas mal de parpaings, de blocs de béton armés de briques, des tuiles, des morceaux de murs et des clôtures. Des plaques ondulées qui pourraient être du fibro-ciment contenant de l'amiante peut-être, mais aussi des pneus, des sacs poubelles et autres sacs plastiques. Voilà. Et puisqu'il est encore lieu occasionnel de décharges sauvages, et donc ce qui dit Décharge Chauvage dit que on ne sait pas quels sont les types de matériaux qui sont mis sur le site et les dangers potentiels que ça peut encourir pour les personnes. Mais en tout cas, c'est ce site où les personnes vont devoir aller dormir, sachant qu'il y a eu beaucoup de migrants déjà qui sont passés à Calais, beaucoup qui ont occupé des zones de forêt à différents endroits ou des zones de dunes, et personne, aucun migrant n'a voulu jamais s'installer là-bas. Et c'est quand même ce lieu-là qui est inhabitable, qui va être demandé d'être habité.
Et bien, comme on a un tout petit peu de temps, on va s'écouter une petite, un petit morceau de musique juste avant de passer à la rubrique Le fil d'Ariane.
Signification putatif.
Juridiction convocationnelle de la suite.
Assignation
procureur.
Juridictionnelle.
Constitution.
Signification
provocation.
Incompétence.
Signification
convocation.
Relax.
Abusif.
Flagrante.
Constitution.
Amphithéotique.
Procureur.
Et juridiction.
Assignation.
Requête.
Récitation.
Constitution.
Authentique.
Incompétence.
Exécution.
L'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir.
Le fil d'Ariane. Des informations pratiques sur le droit et la justice.
Bonjour.
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 Tout d'abord, merci au Canu Info du mercredi de nous accueillir. Donc, on est un petit collectif de quatre avocates qui ont voulu faire connaître quelques. Qui ont voulu faire connaître un petit peu le droit, la justice, et puis donner quelques outils pratiques pour les personnes qui sont confrontées à des problèmes et qui doivent aller soit devant le juge, soit qui doivent rencontrer un avocat, des associations. Voilà un petit peu l'objet de notre émission. un mot s'agissant de la précédente émission qu'on avait fait le mois dernier sur la séparation parentale. On a reçu quelques questions, notamment s'agissant de l'exécution des jugements relatifs à la pension alimentaire lorsque le parent n'exécute pas son obligation de verser une pension alimentaire. On voulait vous informer qu'on répondra à ces questions sur notre blog qui peut être accessible via Canu, via Radio Canu. Aujourd'hui,
sur le blog, en fait, il faut donc aller sur le site de Radio Canu et aller sur il y a un onglet le blog des émissions et vous avez le fil d'Ariane parmi les nombreuses émissions, donc vous pouvez le trouver là-dessus.
Aujourd'hui, on va traiter le thème de la trêve hivernale parce que arrive la fin de la trêve hivernale au 31 mars 2015. On va traiter plus précisément l'expulsion locative dans le cadre de la fin de la trêve hivernale. On va essayer de répondre à plusieurs questions. Tout d'abord, qui peut être expulsable? Ensuite, parmi ces personnes qui peuvent être expulsables, à qui s'applique la trêve hivernale? Que faire quand la trêve hivernale arrive à échéance? Quelles sont les démarches qu'on conseille aux personnes? Quelles sont les possibilités de ces personnes face à la fin de la trêve hivernale et donc à l'expulsion locative qui approche? Et ensuite, nous aborderons la procédure devant le juge de l'exécution. Donc, tout d'abord, qui est expulsable?
Alors, pour cette première question, et question qu'on pose, parce que par définition, les personnes qui sont non expulsables seront protégées, même si le 31 mars arrive. Donc, première question, première définition, c'est pour être expulsable, il faut d'abord tout nécessairement une décision de justice, soit un jugement. Sans ce document-là, de toute façon, on n'est pas expulsable, même si la date du 31 mars approche. Alors, je vais simplement dire quelques mots sur cette décision de justice, ce jugement, mais on vous annonce d'ores et déjà qu'on entend préparer une émission spécifique sur ce thème-là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce jugement et cette audience, mais je vais simplement évoquer aujourd'hui quelques généralités pour que vous puissiez vous repérer dans la chronologie de la procédure. Donc ce jugement, il fait suite à une audience qui se tient devant le tribunal d'instance. On se retrouve dans cette situation soit parce qu'il y a un impayé de loyer qui s'est répété ou qui était assez important, soit parce qu'on est occupant sans droit ni titre d'un lieu, notamment, parmi d'autres hypothèses. On se retrouve également dans cette situation lorsqu'on a été destinataire d'une assignation. Alors, une assignation en justice, c'est un document qui est délivré par un huissier de justice. C'est un document qui est en fait, très concrètement, une convocation avec une date et une heure précise mentionnées dessus, l'adresse du tribunal devant lequel on est convoqué. Et c'est le document qui vient matérialiser l'argumentation et les demandes formées par le propriétaire ou par le bailleur, si c'est une personne différente. Classiquement, ce document, donc, il va demander soit lorsqu'on a un bail, un contrat de location classique, soit ce document va demander de constater qu'il y a un impayé de loyer et donc la résiliation du bail. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que dans la grande majorité des baux, donc des contrats locatifs, dans la grande majorité, on a une clause qui prévoit expressément à l'avance qu'au bout de tant d'impayés de loyer, on a automatiquement la résiliation du bail. Donc dans ce cas-là, le juge n'a pas de marge d'appréciation, il constate qu'il y a un impayé de loyer et le bail est résilié. Si on n'a pas la clause, cette clause-là dans son contrat de location, c'est le juge qui va décider au regard du montant de l'impayé, de la répétition de l'impayé ou des autres éléments, si la situation dans laquelle est le locataire et le propriétaire est suffisamment grave pour justifier ou non la résiliation de ce bail. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que concrètement, cette démarche-là, cette assignation, elle est précédée d'un commandement de payer, qui est délivré également donc, par huissier de justice. Donc ça, c'est les demandes qui vont être formées soit par le propriétaire, soit par le bailleur devant le tribunal. Ce qu'il faut aussi savoir, pour vous opérer dans la chronologie toujours, c'est que ce document doit obligatoirement être communiqué à la préfecture, qui est le représentant de l'État. Ce qui déclenche, et notamment dans le Rhône, puisque c'est un département assez important, enfin la préfecture, en tout cas à Lyon, fait ce genre de procédure, ce qui déclenche dans la plupart des cas une enquête sociale et financière pour savoir un peu quelle est la situation et si un relogement est envisageable et d'autres questions qui peuvent se poser. Donc on a les demandes formées par le bailleur ou propriétaire devant le tribunal, on vient se défendre à la date et l'heure qui sont mentionnées sur le document, et après cette procédure-là, donc encore une fois on y reviendra dans une autre émission, après toute cette procédure-là, on a une décision de justice. Une décision de justice qui, au mieux du point de vue du locataire, va mettre en place un échéancier pour régler cette histoire d'impayé de loyer, ou alors plus souvent, soit constater la résiliation du bail, soit décider de la résiliation du bail s'il n'y a pas une clause qui le prévoit automatiquement, et surtout ordonner l'expulsion des lieux avec des délais. Alors en principe, on a toujours un délai de 2 mois, sauf exception sur lesquelles je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais sur lesquelles on reviendra dans une autre émission. Donc en principe, on a toujours un délai de 2 mois et des délais supplémentaires peuvent être accordés par le juge selon la situation, selon le moment de l'année également, selon plein de différents critères prévus par la loi. Donc cette décision de justice fixe ce cadre-là, donc constate qu'il n'y a plus de bail et ordonne l'expulsion des lieux. Et après cette décision de justice, donc ce jugement, on reçoit un second document qui est le commandement de quitter les lieux. Commandement de quitter les lieux, donc là on retombe sur un acte délivré par un huissier de justice. Et c'est ce document-là en fait en réalité qui va mettre en marche l'expulsion effective des lieux. C'est seulement avec ce document-là qu'on est vraiment concrètement dans la démarche d'expulsion. Donc en principe ce document, enfin d'ailleurs ce document quoi qu'il arrive, rappelle donc qu'il y a une décision de justice qui a été donnée. En principe rappelle donc ce délai de 2 mois qui est toujours accordé et les délais prévus par le jugement spécifiquement, donc au regard des critères prévus par la loi. Donc pour résumer sur cette première question, les personnes expulsables sont les personnes qui sont déjà passées devant un juge, le tribunal d'instance, qui a ordonné l'expulsion, et après cette décision de justice, qui ont reçu un commandement de quitter les lieux, et les délais prévus par ce commandement de quitter les lieux qui renvoie à la décision de justice sont écoulés.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Mais donc, parmi ces personnes expulsables, à qui s'applique la trêve hivernale ?
En principe, elle s'applique à toutes les personnes expulsables. Donc l'OPSA, c'est le principe. Le code, je ne vous dis pas quel code c'est, prévoit que c'est pour tout le monde. Ça signifie donc que du 1er novembre au 31 mars, même si le juge s'est prononcé, même si les délais sont dépassés qui avaient été accordés, aucune mesure d'expulsion ne peut être mise en œuvre. Avec, comme tout bon principe, il y a des exceptions. Moi, j'en ai dénombré 5. La première exception, c'est lorsqu'il y a un relogement qui est assuré dans des conditions satisfaisantes qui respectent l'unité et les besoins de la famille. Autrement dit, s'il y a une proposition de relogement qui remplit ces critères-là, alors qu'ils sont assez vagues mais qui permettent de... qui en tout cas enfin, sont conditions satisfaisantes et unité besoin de la famille, à ce moment-là, la mesure d'expulsion peut être mise en œuvre, y compris si on a refusé la proposition. Ça veut dire simplement que lorsqu'on a une proposition de relogement et qu'on est dans une situation où on est expulsable, il faut faire attention à savoir à décider ou pas de la refuser. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'accepter n'importe quoi, mais par contre qu'avant de la refuser, il vaut mieux prendre conseil soit auprès d'un travailleur social, soit auprès d'une association spécialisée pour savoir quelles sont les conséquences si on refuse parce qu'on considère que cette proposition-là est bien adaptée ou pas. Et du coup, c'est bien d'avoir l'avis d'un tiers par rapport à ça.
Mais donc ça veut dire que si on refuse la proposition de logement, on peut être expulsé pendant la trêve hivernale ?
Oui, ça veut dire ça. Mais par contre, il faut bien démontrer que la proposition de logement était adaptée. Mais donc c'est la première exception, et du coup ça veut dire qu'il faut faire quand même attention quand on refuse une proposition de logement.
Mm-hmm. Et c'est qui du coup qui a le pouvoir de démontrer que la proposition de logement était bien...
D'autres questions de...
Pardon.
Non, à mon avis, c'est des choses qui peuvent se... Enfin, parce que du coup, la mesure d'expulsion, c'est qui va la mettre en œuvre, enfin, c'est un huissier qui va peut-être se présenter, et c'est à ce moment-là qu'on va expliquer que c'est pas possible, parce que je pense, mais je suis pas tout à fait sûre, j'avoue, si la personne, enfin, si l'huissier se présente et qu'on explique qu'en fait, en disant, ben voilà, vous avez certes, vous êtes, il y a très hivernal, mais il y a une proposition de leur relogement qui à coup vous avez refusé, si on explique qu'elle n'était pas du tout adaptée, je pense qu'il y a une possibilité à ce moment-là de discuter aussi, et éventuellement, du coup, d'aller dans le juge de l'exécution. Et c'est là que ça fait la transition avec tout à l'heure. La deuxième exception, donc pour les personnes qui ne bénéficient pas de la trêve hivernale, ce sont les personnes qui sont entrées dans les locaux qu'elles occupent par voie de fait. Je ne vais pas redéfinir précisément ce que c'est que la voie de fait, parce qu'on en parlera probablement dans une prochaine émission, mais concrètement et en gros, c'est les personnes qui sont rentrées dans un lieu par effraction ou par destruction. La porte n'était pas ouverte, il a fallu un peu la forcer pour rentrer. Dans ce cas, le juge, lorsqu'il prononce l'expulsion, peut supprimer le bénéfice de la trêve hivernale. Ça veut dire que c'est pas automatique. On pourrait imaginer, dans un monde idéal, qu'un juge prononcerait l'expulsion d'un squat et dirait, mais ne dirait pas que la trêve hivernale est supprimée. Alors qu'en général, il supprime toute forme de délai, quoi qu'il en soit. Mais ça pourrait arriver, en tout cas, c'est pas automatique, il faut que ce soit explicitement prévu. La troisième exception, c'est pour les occupants des résidences étudiantes, lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions pour être dans une résidence étudiante. Autrement dit, une personne étudiante, enfin qui ne serait plus étudiante et qui se maintiendrait dans un local, dans une résidence comme ça, à ce moment-là, pourrait être expulsée, y compris du 1er novembre au 31 mars. Donc ça, c'est la troisième exception. La quatrième, c'est lorsque l'on loge dans un hôtel, puisque celui-ci ne peut pas constituer l'habitation principale de la personne, même si dans les faits ça l'est, en tout cas ça ne l'est pas d'un point de vue juridique, et donc il ne bénéficie pas non plus de ces délais-là. Et enfin, la dernière catégorie de personnes qui ne bénéficient pas de la trêve hivernale, c'est dans un cas un peu particulier, c'est lorsque la personne qui a une mesure d'expulsion qui a été prononcée en raison des violences sur le conjoint. Donc en gros, il y avait des violences conjugales, pour des raisons de sécurité, on a décidé d'expulser le conjoint violent, ou la conjointe violente d'ailleurs, dans ces cas-là, il n'y a pas de trêve hivernale qui s'applique, il peut être expulsé quel que soit le délai. Donc en résumé, en dehors des exceptions que je viens d'énoncer, il n'y a pas de mesure d'expulsion possible entre le 1er novembre et le 31 mars 2014, même si on a fait l'objet d'un jugement. Pardon, en plus j'avais noté 2015. Même si on est expulsable et même si les délais dont on a bénéficié sont expirés.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Et que peuvent faire les personnes quand la trêve hivernale arrive à échéance?
Alors, quand la trêve hivernale arrive à échéance, donc on rappelle le 31 mars 2015, sachant que le législateur a avancé la date depuis quelques années. Première chose, c'est surtout, il ne faut surtout pas attendre cette date-là avant de faire des démarches. Il faut les commencer dès que possible, même si des délais ont été accordés par le tribunal, par le jugement qui a été rendu. Et même si ces délais peuvent apparaître comme importants, plusieurs mois par exemple donnés par le juge, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les problématiques de relogement est assez complexe, notamment dans le département du Rhône. Et il peut être très long, enfin beaucoup de temps peut se passer avant qu'on ait concrètement une proposition de relogement, malgré une situation sociale, familiale, financière, critique. Donc il ne faut surtout pas attendre la date du 31 mars, mais bien commencer les démarches dès que possible. On vous conseille également très vivement de solliciter des conseils, un accompagnement auprès des différents acteurs qui sont compétents sur ces questions-là. Alors, tout d'abord, les associations. Il y en a de nombreuses à Lyon très compétentes. Alors, je vais faire une petite liste, mais non exhaustive. Et sur le blog, donc, qui est en cours de rédaction, on mettra la liste des différentes associations et d'autres avec les contacts également. Donc, à Lyon, vous avez notamment l'ALPIL, le CLAGE, la Fondation Abbé Pierre, bien sûr, la RALIS, différentes associations qui peuvent accompagner. Il y a également les acteurs institutionnels, donc mairie, préfecture, qui est également un pôle qui est responsable des questions de logement et de relogement en cas d'expulsion, la maison de la veille sociale, pôle famille, la CAF également qui peut fournir des conseils, voir aussi si les droits sociaux correspondent bien à la situation réelle de la personne, parce que parfois on a des personnes qui n'ont pas ouvert en fait les droits auxquels ils avaient droit, pardon pour la répétition. Et dernier lieu aussi vers lequel on peut aller, c'est les permanences qui se tiennent au tribunal d'instance de Lyon et de Villeurbanne. C'est les permanences appel. Donc c'est une permanence où vous avez un avocat et quelqu'un de la CAF qui est présent et qui délivre des conseils juridiques, notamment lorsqu'on a donc un jugement qui soit vient d'être rendu, soit une audience vers laquelle on est convoqué. Et simplement pour terminer aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand la trêve hivernale arrive et que tous les délais accordés par les décisions de justice, donc rappelés par le commandement de quitter les lieux, sont écoulés, on est vraiment face à un risque imminent, immédiat d'expulsion. C'est un jugement qui peut être exécuté par la force, c'est-à-dire que c'est très concrètement l'huissier de justice qui va venir au domicile, qui va faire l'inventaire des meubles, qui peut prendre les clés et qui peut demander éventuellement, s'il y a une opposition, le concours des services de police pour procéder à l'expulsion. Donc on est vraiment en fait face à un peu l'urgence, à l'imminence de l'expulsion effective, réelle. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est aussi important de vraiment faire les démarches dès que possible et pas attendre la fin de la trêve hivernale.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Et est-ce que c'est possible de saisir à nouveau le juge? Quelles sont les démarches concrètes que peuvent faire les personnes?
Alors oui, c'est possible de saisir un juge. C'est un autre juge que celui qu'on a vu avant. Il s'appelle le juge de l'exécution. Son petit nom, c'est le GEX. voilà, c'est un juge qui est chargé de régler les difficultés qui sont liées à l'exécution d'une décision de justice. Autrement dit, c'est pas un juge qui va rejuger l'affaire. Il va pas se prononcer sur l'impayé de loyer, par exemple, ou sur le comportement du locataire qui a conduit à la résiliation du bail, ou sur le fait qu'on n'avait pas de titre pour occuper les locales. Ça a été jugé, ça sera pas rejugé. Simplement, il peut aménager, je dirais, la décision qui a été prise. Bon, la comparaison est un peu audacieuse, mais c'est un peu un juge de l'application des peines au niveau civil. C'est pas tout à fait. Bon, c'est un peu sévère pour lui, mais voilà, il est vraiment en charge de l'exécution de la décision de justice. Et donc, notamment, il peut accorder des délais lorsqu'il y a une décision d'expulsion qui a été rendue. Il peut donc accorder des délais simplement. Si on se présente devant le juge, donc devant le fameux juge de l'exécution, le GEX, il faut qu'on ait des éléments nouveaux à apporter. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas forcément de saisir le GEX juste après qu'il y ait la décision qui soit intervenue. Mais il va falloir expliquer la situation et expliquer pourquoi est-ce qu'on demande un délai, voire un nouveau délai, parce qu'on a pu en obtenir déjà. Et quelles sont les raisons pour lesquelles on pense qu'on peut y avoir droit. Puisqu'il n'y a pas de droit à ça, c'est vraiment une possibilité pour le juge d'accorder de nouveaux délais. Donc les éléments nouveaux qu'on peut apporter, c'est par exemple apporter la preuve qu'on a trouvé un nouveau logement, mais qu'il n'est pas disponible tout de suite, et donc qu'on a besoin de cette période de transition pour éviter de se retrouver à la rue le temps de pouvoir occuper ce nouveau logement. Donc ça peut être un exemple. On peut également montrer que la situation professionnelle, personnelle ou familiale a changé, et que ça a des incidences sur la mesure d'expulsion. Par exemple, ça peut être l'arrivée d'un enfant, par exemple, qui est forcément plus délicate la situation. Ça peut être la perte d'un emploi qui va donc rendre plus difficile le fait de pouvoir trouver un nouveau logement de remplacement. Ou à l'inverse, le fait d'avoir trouvé un emploi qui permet justement d'avoir une situation qui s'est améliorée, qui peut donner plus de chances pour que on puisse trouver un nouveau logement. Ça peut être donc un élément. Ça, on peut également démontrer qu'on a fait beaucoup de démarches mais qu'elles n'ont pas abouti. Après, beaucoup de démarches, c'est montrer vraiment que dès qu'on a su que l'expulsion était prononcée, même si et pendant le délai qui a été accordé, qu'on a fait toutes les démarches possibles, c'est-à-dire que on a contacté les associations, on a contacté les acteurs institutionnels, qu'on a fait des demandes de logement social de cas échéant, qu'on a contacté les personnes, éventuellement qu'on a saisi la commission du droit au logement opposable. C'est une commission qui, en fait, quand on est dans cette situation-là, on peut saisir une commission qui va décider si la situation est prioritaire ou pas, ce qui donne en fait un droit ensuite à un droit opposable, enfin, au préfet, qui du coup va se retrouver obligé de pouvoir désigner un hébergement, après, enfin un hébergement, en tout cas un logement. Mais dans ces cas, enfin, c'est une procédure un peu longue, mais qui peut montrer qu'on a fait toutes les démarches possibles. En tout cas, il faut que ces démarches-là, pour qu'elles puissent attirer l'attention du juge, qu'elles soient nombreuses, qu'elles soient appropriées et qu'on a fait preuve de bonne volonté, qu'on n'a pas juste attendu que les délais passent et que voilà, on a attendu que qu'on se retrouve au 31 mars et qu'on n'a rien fait. Dans tous les cas, quelle que soit la situation, que ce soit le fait qu'on ait un nouveau logement ou qu'il y a un élément nouveau dans la situation, il faut montrer qu'on n'a pas pu exécuter la décision de bonne foi. Encore une fois, qu'on a vraiment fait tout ce qu'on a pu, mais que vu la situation, on se retrouve dans une situation où on n'a pas pu exécuter la décision, qu'on n'est pas parti de là. Au regard de ces éléments, après c'est des exemples, il peut y avoir plein d'autres choses, hein, j'en ai pas forcément pensé à tout. Le juge de l'exécution peut donc donner de nouveaux délais. Encore une fois, c'est une possibilité, il en est pas obligé. Il peut prendre en compte la même chose que le précédent juge avait prendre en compte, donc les circonstances atmosphériques par exemple. Voilà, tous les éléments qui peuvent jouer. Et il peut prendre également en compte la situation du propriétaire. C'est-à-dire que ce sera pas la même situation, je pense, si c'est un propriétaire qui a un particulier contracté un crédit pour acheter cet appartement qu'il a décidé de louer, que si c'est un bailleur qui est un gros bailleur et qui du coup pour qui ça n'a pas beaucoup d'incidence. Donc c'est aussi des éléments qui peuvent jouer dans le fait d'accorder ou pas des délais et encore de nouveaux délais supplémentaires. En tout cas, il peut accorder des délais entre 3 mois et 3 ans qui peuvent être renouvelables et voilà, du coup ça peut permettre d'obtenir un nouveau délai, y compris à la fin de la trêve hivernale. Mais encore une fois, c'est pas automatique, donc il s'agit pas de se présenter juste comme ça en disant je voudrais un nouveau délai. Il faut vraiment préparer le dossier.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Et comment se passe la procédure? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir saisir le juge? Quelle est la méthode?
Alors la méthode, le déroulement de la procédure devant ce juge-là, donc le juge de l'exécution. Première chose, c'est qu'on va au greffe. Alors le greffe, je laisse le suspense parce que c'est notre mot du jour qui vous sera défini tout à l'heure. Au tribunal de grande instance à Lyon, donc au palais de justice. On va donc dans ce lieu faire une déclaration, donc signaler auprès du greffe de ce juge qu'on souhaite le saisir de la situation. Au moment de cette démarche, il faut toujours avec soi la décision de justice, donc le jugement qui a été rendu, et la copie du commandement de quitter les lieux. Toujours la copie, jamais donner les originaux, bien sûr, au juge ou à quiconque. D'ailleurs, toujours garder les originaux pour soi. Alors, dans le cas de cette procédure, l'avocat n'est pas obligatoire, mais sans vouloir faire notre publicité, c'est quand même recommandé, sachant que si on n'a pas les honoraires, pas l'argent pour régler les honoraires d'un avocat, on peut bien sûr solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle, donc qui prend en charge tous les frais d'avocat, mais également de huissier de justice, ce qui peut aussi être important. Sinon, dans tous les cas, bien s'entourer des conseils, quoi qu'il arrive, de juristes, et notamment auprès des associations, donc, qui seront listées, rappelées sur le blog. Voilà, donc simplement pour résumer, c'est une procédure qui se prépare et qui se prépare en étant accompagnée, en ayant les bons conseils sur déjà le pouvoir de ce juge-là, qui reste très, très limité, comme ça a été rappelé, et qu'est-ce qui pourra influencer sa décision. Je vous précise également qu'il y a, sur le site de la Fondation Abbé Pierre, donc de la FAP, il y a un modèle de lettre de saisie du juge de l'exécution, et il y a un petit vade-mecum qui est très bien fait, qui explique un peu comment ce juge va procéder et qu'est-ce qui est important de lui donner. Alors, toujours dans le déroulement de cette procédure, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une procédure qu'on appelle suspensive. C'est-à-dire qu'en fait, en saisissant ce juge de l'exécution, on n'est pas protégé. Le fait de lui avoir demandé de juger, de redonner des délais supplémentaires, n'empêchera pas l'huissier de justice, le propriétaire, d'aller au bout de la procédure s'il le souhaite en attendant. C'est pour ça qu'il peut vraiment être très important, très utile, de bien signaler qu'on a fait cette démarche. Donc la signaler éventuellement à l'huissier de justice par un courrier, voire même au commissariat, si les choses sont vraiment devenues un petit peu compliquées et tendues, pour essayer de ralentir la procédure, parce qu'en pratique, quand même, ça va exercer une influence de savoir qu'il y a un juge qui est saisi pour ou peut-être éventuellement donner des délais supplémentaires pour quitter les lieux. Donc le jour de l'audience, on est face à un juge unique qui va décider donc tout seul, et on va se présenter pour expliquer sa situation, expliquer pourquoi on forme cette demande, où on en est au jour de l'audience, sachant que le propriétaire ou bailleur seront éventuellement présents également à l'audience, puisque c'est la partie adverse et qu'ils ont également leur position par rapport à cette demande. Alors, le rôle de ce juge-là, il est limité, comme ça a été rappelé. On n'est vraiment que sur des éléments nouveaux. Il ne va pas regarder à nouveau tout ce qui s'est passé et tout ce qui a amené à cette situation-là. Mais il va vraiment être sur le jour de l'audience, où en est la personne, où en est la situation. Le jour de l'audience, donc, il faut bien venir toujours avec ce jugement qui a été rendu et le commandement de quitter les lieux. Mais surtout, tous les justificatifs sur sa situation. Situation familiale, professionnel, médical éventuellement, parce qu'on se retrouve parfois dans cette situation aussi parce qu'on a des problèmes de santé. Tous les justificatifs sur les démarches de relogement qui ont pu être faites ou qui sont en cours ou qui sont à venir. Sur sa situation administrative également. Enfin voilà, tous les documents qui peuvent justifier de sa situation. Petit conseil aussi pratique qui n'est pas obligatoire, mais c'est mieux, ça optimise les chances d'avoir des délais, c'est de classer ces documents un peu par thème en quelque sorte, de les lister sur une feuille et de donner un numéro à chacun des documents. Et toujours, par contre, quand on remet un document dans le cadre d'une procédure, les photocopier en 3 exemplaires. Un ira au juge, un ira à la partie donc adverse qui sera présente, donc le propriétaire ou le bailleur, et puis un à conserver pour soi, quoi qu'il arrive. Donc, devant ce juge-là, il faudra mettre en avant ce qui a été rappelé tout à l'heure, sa situation. Donc, par exemple, au niveau professionnel, si on a signé un contrat de travail, mais qu'il n'a pas encore commencé, avoir ce document avec soi, ou alors une promesse d'embauche, ou alors quelque chose qui justifie qu'on est en cours de démarche et que ça va bientôt aboutir. S'il y a une situation de santé un peu délicate, les certificats médicaux, les documents médicaux qui peuvent en attester. Si on a pu débloquer sa situation au niveau social avec l'ouverture de nouveaux droits, pareil, un document qui en justifie. Si par exemple au niveau familial aussi, on est en cours de procédure divorce, et souvent ça peut être compliqué pour celui qui quitte le domicile d'avoir un relogement, justifier aussi de ça, de où ça en est au niveau de la séparation, de la procédure, et qu'est-ce qui va arriver à court et moyen terme. Dans les éléments également, dans les documents donc, concrètement à fournir, s'agissant des recherches de relogement, des recherches de relogement, puisque c'est un des gros critères de ce juge-là, bah, ça va être par exemple les courriers qu'on a reçus, la copie des formulaires qu'on a déposés pour demander un logement. Si on a saisi donc, la commission d'allô, pareil, l'accusé de réception de cette démarche-là. Vraiment tous les courriers, tous les formulaires, toutes les attestations possibles s'agissant des démarches de relogement. Et dernier type de document, ça va être tous ceux qui témoignent un peu de la bonne foi, puisque c'est un critère prévu par la loi. Et donc, en fait, c'est les démarches qui sont en cours et montrer tout ce qu'on fait pour essayer de voilà, trouver un relogement, mais aussi montrer que ce n'est pas possible tout de suite de quitter les lieux. Donc, par exemple, si la décision de justice a prévu qu'en attendant de quitter les lieux, il fallait régler une indemnité d'occupation. Donc, indemnité d'occupation, c'est souvent en fait le même montant que le loyer et c'est ce qui est dû au bailleur propriétaire pendant qu'on est dans les lieux. Donc, si la décision de justice a prévu cette indemnité, bah, démontrer qu'on l'a payée ou qu'on essaye de la payer ou qu'on paye au moins en partie, donc en montrant les justificatifs, les virements, voilà, les chèques, enfin, bien garder la copie de tout ce qu'on fait durant cette période-là. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut pouvoir donner au juge de l'exécution, donc ce jour de l'audience. Et sachant ensuite, donc, le juge va prendre ces éléments, va prendre, si la partie adverse est présente, bah, également son point de vue sur tout ça, et va mettre souvent en délibéré. Alors, mettre en délibéré, ça veut dire qu'il ne va pas rendre son jugement tout de suite, le jour de l'audience, qu'il va prendre les documents, prendre le temps d'examiner un petit peu tout ça, et plus tard, rendre sa décision par écrit. Donc, on la reçoit en principe par lettre recommandée à l'adresse qu'on a donnée. Donc, là encore, chose très importante, c'est de bien donner une adresse valable, et peut-être éviter, du coup, de donner l'adresse du lieu dont on est expulsé, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer par la suite. Donc, bien donner une adresse fiable à laquelle on pourra recevoir la lettre recommandée. Donc, pour résumer sur cette partie-là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien les justificatifs qu'on va donner au juge, plus encore que ce qu'on va pouvoir lui dire à l'audience. Donc, vraiment, tout ce qu'on va pouvoir lui donner en papier, concrètement, qui va influencer et déterminer la décision qu'il va prendre, et donc l'octroi ou non de délais supplémentaires pour pouvoir organiser un peu les choses et ben, trouver sereinement un nouveau logement.
Le mot qu'on comprend rien.
Donc, aujourd'hui, on a décidé de définir ce que voulait dire le greffe. Aussi parce que c'est un mot qu'on utilise assez souvent, qu'on pense souvent savoir ce que ça veut dire, mais voilà, c'est un mot qui peut, qui revêt en fait, pas plusieurs sens, mais plusieurs fonctions. Le greffe, globalement, désigne l'ensemble des services d'une juridiction qui est composée de fonctionnaires de justice qui assistent les magistrats dans leur mission. Le greffe, c'est aussi l'interlocuteur entre le justiciable, la personne qui va au tribunal, et c'est l'intermédiaire entre la personne qui va au tribunal et les magistrats. Quand vous avez des renseignements à demander, vous allez au tribunal et vous allez rencontrer le greffe. C'est auprès du greffe que vous allez déposer vos requêtes, c'est auprès du greffe que vous allez pouvoir demander tous les renseignements s'agissant de la requête que vous voulez déposer. Au cours de l'audience, c'est la personne que vous voyez et qui souvent retranscrit les débats. Ils assurent le suivi et le déroulement de l'audience. C'est celui aussi qui va appeler l'affaire, qui va appeler votre affaire au cours d'une audience et qui va vous demander de vous approcher de la barre, de vous approcher du magistrat. C'est également celui qui va conserver les jugements et qui va donc les communiquer. Et c'est celui qui garantit l'authenticité de tous les actes de la juridiction. Voilà, globalement, les différentes missions qu'on les greffe.
Et du coup, greffier, c'est la même chose.
Oui, le greffe est composé de greffiers et chaque greffe a un greffier en chef.
D'accord, ok.
C'est la personne que tu vois au tribunal, c'est le greffier, et le greffe, c'est le nom de l'institution en tant que telle. Donc quand tu fais une déclaration de grève, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu présentes au guichet en disant voilà, je voudrais saisir le juge de l'exécution, et il va, la personne, donc le greffier ou la greffière, va remettre un document à remplir, et en général va aider à le remplir aussi d'ailleurs, parce que c'est vrai que sur des procédures comme ça où on sait que les gens ne sont pas assistés d'un avocat, ils sont quand même assez aidants. Enfin, c'est vraiment des personnes, moi je connais plus les greffes du tribunal administratif, mais c'est vraiment des personnes qui aident beaucoup à l'accès à la justice, parce qu'ils connaissent bien les procédures et qui sont là pour ça également, quoi.
Et donc je rappelle le fonctionnement de cette chronique, c'est que vous pouvez poser des questions donc via le blog ou l'émission, le contact mail.
Oui, alors notre adresse mail c'est le fil d'Ariane tout attaché, donc LEFILDARIANE @rebellion.info, rebellion REBELYON.info, donc adresse à laquelle qu'on consulte régulièrement et on tâchera de vous tenter de vous répondre. Sachant que c'est pas des, qu'on fera pas de consultation individuelle, c'est plutôt des questions d'ordre général auxquelles on pourra répondre, et voilà.
Ouais, l'idée c'est que n'hésitez pas, après avoir entendu une émission, de poser des questions, et puis nous on y répondra aussi au cours de la prochaine émission. D'ailleurs, s'agissant de la prochaine émission, elle aura lieu le 22 avril et ce sera sur le thème du droit au séjour des étudiants étrangers. Et donc voilà, d'ailleurs, si vous avez d'ores et déjà des questions sur ce thème-là, nous on pourra y rebondir au cours de l'émission.
Et alors moi j'ai déjà une question par rapport au thème que sur les expulsions locatives, et peut-être vous y répondrez via le mail, je ne sais pas si on aura le temps, mais c'est la question autour des garants, parce que de plus en plus il y a des garants quand on signe un bail, et donc moi je voulais savoir si on ne paye pas notre loyer, le garant il paye, mais si le garant il ne paye pas, ça veut dire qu'il y a ces... cette procédure qui est mise en place d'expulsion, c'est ça ?
Oui, en fait, c'est dès qu'il y a un impayé de loyer, et quand on dit impayé de loyer, en fait, d'abord ça va arriver au locataire, mais si le loyer n'est pas payé par le locataire, le propriétaire a même l'obligation de demander en fait au garant d'assumer, de payer le loyer qui n'a pas été payé avant d'aller plus loin sur l'expulsion. Donc oui, c'est uniquement en cas d'impayé de loyer au sens général, en fait.
Après, la question que je me posais, du coup c'est des débats, une question. non, c'est parce que je me disais, le fait d'avoir de pas payer le loyer, même si le garant va pouvoir apurer la dette, je sais pas si ça permet ou pas. La question que je me pose, c'est du coup peut-être qu'il y a une possibilité de résilier le bail malgré tout, parce que même si le garant il est là pour finalement permettre au bailleur, enfin propriétaire, de récupérer l'argent qu'il aurait dû toucher, mais je suis pas certaine, je me demande si même si il y a un garant, s'il n'y a pas une possibilité, alors pas sur un mois de loyer, mais sur un comportement à répéter, je sais pas s'il n'y a pas une possibilité de résilier le bail également, mais voilà, à confirmer. Comme quoi on n'est pas toujours sûr de nous.
Merci beaucoup.
Bah, merci à vous.
Merci de nous avoir écoutés. Bonne soirée. Ensuite, on va mettre quelques minutes à peine
au pénal, puisque le fait de ne pas respecter l'obligation alimentaire pour son enfant, donc de ne pas payer la pension alimentaire, est également constitutif d'un délit qui est l'abandon de famille. Donc là encore, le parent peut déposer plainte auprès de la police. Et